Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle voix de Guillaume. Je vous avais promis un petit retour après une semaine d'utilisation de l'iPhone X. Et bah voilà, c'est un petit peu l'heure des comptes, on va dire, au bout d'une semaine. Alors, je vais prendre les choses point par point. Première chose relative à l'autonomie. Je parlais de petite inquiétude sur l'autonomie. Bon, je dois dire que aucun problème sur l'autonomie. Ça correspond peu ou prou au constat que je pouvais faire d'usage de mon iPhone 7 Plus. Donc sur ce plan-là, il y a pas vraiment de changement. Et par contre, il y a un truc quand même qui est cool. C'est la recharge par induction. Ouais, on pose son iPhone sur une petite base et puis ça le recharge. Ça, c'est vraiment pratique. J'ai acheté un chargeur IKEA, là, je me rappelle plus leur nom, individuel, pour une quinzaine d'euros de mémoire. Donc il suffit de percer en gros un disque au niveau de vos meubles IKEA, mais ça pourrait être d'autres meubles. Bon, en l'occurrence, j'ai en guise de table basse un vieux morceau de bureau que j'ai recyclé en table basse, en table de nuit, pardon. Et alors j'avais la possibilité de... Alors, il faudrait acheter normalement, je sais pas quel est le terme là, mais c'est un petit cylindre qu'on met sur une perceuse pour percer un trou. Bon, en fait, je me suis rendu compte que la méthode traditionnelle pour découper un rond dans un meuble, à savoir percer avec une mèche assez épaisse et ensuite prendre une scie électrique pour découper ça, bah, ça marche très bien. J'ai réussi à faire un disque propre, j'ai mis le support dedans et depuis j'avoue que bah, c'est très confortable de pas avoir, c'est con hein, mais à brancher ce câble tous les soirs, tous les matins, enfin surtout tous les soirs. Et c'est confortable, j'avoue, d'avoir juste à le poser et de pas se poser de questions. À l'époque où le Lightning était arrivé, je trouvais ça cool de pas avoir de sens à respecter pour mon câble, pour que voilà, quand on a un peu la tête dans le cul, qu'on est un peu dans le noir, eh ben on puisse malgré tout brancher facilement son câble. Et j'avoue que c'était vraiment bien. Alors le fait de le poser, c'est vraiment top. Oh, on aimerait une recharge un peu plus rapide, mais au moins la compatibilité de Qi fait que c'est compatible avec beaucoup de chargeurs qu'on trouve sur le marché. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc un petit coup de cœur sur la recharge par induction. J'ai acheté aussi un chargeur, je crois que ça m'a coûté 10 balles sur Amazon pour le bureau. Donc quand j'arrive au bureau, je pose mon iPhone sans le brancher. Et du coup, c'est quand même vachement pratique de ne jamais me poser la question de quand je le charge. Et ça me donne l'impression que bah, il a plus d'autonomie. Alors je pense que pas forcément bon pour la batterie hein, cette histoire. Je le pose, je le charge, je le reprends, je le décharge. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que j'ai le sentiment à chaud que les batteries préfèrent des cycles complets. Je me trompe peut-être. En tout cas, moi, la batterie fait du yo-yo en permanence maintenant avec l'induction. Il va quand même falloir que les constructeurs nous trouvent une solution pour que les batteries durent plus longtemps, s'il vous plaît. Mais ça, c'est un vœu pieux qu'on a tous depuis pas mal de temps, je pense. Alors, d'autres retours qui peut-être intéresseront ceux qui se posent la question de l'iPhone X. D'une part, l'écran, la taille de l'écran, je m'y suis fait complètement. Il y a beaucoup d'apps maintenant qui ont été mises à jour, ça va assez vite et qui optimisent leur affichage pour l'écran de l'iPhone X, donc qui prend bien en compte le haut et le bas de l'écran sans problème, sauf les applications Google, alors que je suis un bon utilisateur, on va dire, des apps Google, notamment Google Docs, etc. Et c'est dommage que voilà, que quelques apps mettent un peu de temps à se mettre à jour par rapport à l'iPhone X. Ça va venir très vraisemblablement, mais typiquement une application comme Waze, une fois qu'elle est mise à jour sur iPhone X, je concède que j'ai une petite préférence maintenant quand même pour le format allongé et tiré en hauteur assez immersif plutôt que le format de l'iPhone 7 Plus. De fait, l'iPhone 7 Plus et enfin les formats Plus en général restent d'excellents form factors. Moi franchement j'ai vraiment adoré ce format là. Quand on les reprend après pas mal de temps d'utilisation d'un iPhone X, en tout cas d'un écran format iPhone X, on a le sentiment que le smartphone est de format carré. Je ne sais pas comment vous décrire un petit peu plus clairement cette sensation, mais j'ai l'impression, quand je reprends un iPhone Plus, que l'écran est carré, c'est-à-dire qu'il a un rapport largeur-hauteur qui est bien plus faible, évidemment, qu'un écran aussi étiré que celui de l'iPhone X. Et c'est très bizarre, mais voilà, les deux sont des solutions très agréables. Est-ce qu'il y en a une mieux que l'autre? Franchement, je suis pas sûr. Je peux pas dire que l'écran de l'iPhone X soit mieux au niveau de son format que les iPhone Plus. Je peux pas dire que le Plus est mieux que le 10. Je crois que vraiment c'est une histoire de feeling et c'est une histoire de confort d'utilisation. Et je pense que dans toute cette gamme, il y a forcément des formats d'iPhone pour tout le monde pour l'instant. Et ça, c'est cool. Au niveau de la dalle de l'écran, je dois confesser le fait que je m'étais pas rendu compte au tout début, aux toutes premières prises en main de l'iPhone X, de la qualité de l'écran qui est au niveau des couleurs et surtout de cette densité de pixels magnifique. Je dois reconnaître que ça me fait vraiment penser aux dalles des smartphones de chez Samsung, qui sont d'une beauté vraiment au niveau de la restitution, vraiment très 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 chouette. Les images pètent sans pour autant être flashy. La définition des polis est très agréable. Vraiment, j'ai un bon coup de cœur sur l'écran. Alors, je pense que d'ailleurs l'optimisation de l'écran se jouait sur ces deux aspects. Hein. Pour les développeurs, elle se joue sur la taille de l'écran, mais aussi sur l'utilisation de la densité de pixels. Typiquement, moi, sur iPad 9,7 pouces, j'ai des apps qui sont pas encore à jour et c'est sensible mais notable qu'il y a une différence d'affichage, notamment sur les typos et sur le clavier, ça se ressent. Et là, je dois dire que c'est vraiment très très agréable. Et alors, un dernier point sur lequel je voulais peut-être m'attarder sur cet iPhone X après une semaine d'utilisation, c'est Face ID. Puisque moi j'étais très en attente de pouvoir tester cette fonctionnalité. Ça marche très bien, c'est très fluide. On peut pas dire que ce soit plus long que Touch ID à l'usage. Alors oui, si on compare le temps que met le lecteur d'empreintes digitales de Touch ID à reconnaître l'empreinte et le temps que met l'ensemble du dispositif caméra à reconnaître votre visage, je pense que Touch ID est plus rapide. Ceci étant, à l'usage, il s'avère qu'il y a moins de manip, il n'y a pas à aller poser son doigt et il y a plein de moments où Face ID vous reconnaît alors même que vous n'avez pas pris en compte le réflexe de vouloir le déverrouiller. Ça marche dans des conditions de luminosité assez dingues. Ça marche de biais, ça marche dans plein de situations qu'on aurait pu s'imaginer complexes. Ça marche pas dans toutes les situations complexes. Typiquement, quand on est près de son smartphone, un peu au-dessus là, et que il est un peu plus haut que notre regard, je trouve qu'il n'arrive pas à nous reconnaître. Mais en tout cas, Face ID a pas plus de problèmes de reconnaissance que n'en avait objectivement Touch ID. Il y a qu'à voir ne serait-ce que tous les cas où le smartphone est trempé. Samedi, j'ai été me balader en ville à Amiens, et évidemment, il pleuvait, comme souvent à Amiens. Et Touch ID, dès qu'on est en extérieur et qu'il pleut, qu'on a soit le doigt humide, soit le capteur légèrement humide, ça fonctionne vraiment pas. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on tape le code. Donc ça, c'est pénible. Et il n'y a pas plus de cas dans Face ID où on n'arrive pas à déverrouiller son téléphone. Voire, j'allais dire, en extérieur, c'est hyper confortable parce que on peut porter, là c'est con, hein, mais des gants sans avoir à se prendre la tête pour regarder au moins les notifications. Après, évidemment, pour interagir, il faudra enlever les gants. Mais avec des gants, si on veut juste voir les notifications sur l'écran verrouillé, il suffit de regarder le smartphone. Et j'avoue que c'est assez magique. Alors, il y a un cas quand même où ça marche moyen. Mais c'est un cas très personnel. Je vous décris un petit peu le problème. Je suis myope. J'ai une correction respectivement aux deux yeux de 4,50 et de 3,75. Donc vous voyez que je suis quand même bien myope. et je porte des lentilles ou le soir des lunettes. Alors, les lunettes ou les lentilles ne sont pas du tout un frein à la reconnaissance de mon visage. Comme les tests le montraient, le fait qu'on soit habillé, couvert, il faut pas qu'il y ait que les yeux visibles, hein, avec une cagoule, mais de manière générale, tout notre attirail vestimentaire d'hiver classique fait qu'on est très bien vu et reconnu par Face ID. Ça, il y a aucun problème. Les lunettes, il n'y a pas de problème. Il me reconnaît parfaitement bien. Je n'ai pas des lunettes qui filtreraient les infrarouges. Donc voilà, tout marche bien. Il y a un cas, c'est moi, j'apprécie parfois, pour me reposer les yeux, de ne pas porter de correction. Alors, je pense que c'est pas très bien, hein, mais le soir, notamment, quand j'ai retiré mes lentilles de contact et que je veux regarder 2-3 trucs sur le smartphone, je ne mets pas mes lunettes. Je me sens plus à l'aise de regarder de près mon smartphone et de ne pas avoir de correction. C'est une sensation que les myopes comprendront probablement, qui est assez difficile à expliquer, mais en tout cas, voilà, je suis assez près de mon smartphone et je préfère ça pour ne pas avoir de correction. Je ne suis pas à 5 cm non plus, hein, mais je suis suffisamment près pour ne pas être à bout de bras, à portée de bras. Et en l'occurrence, Face ID a quand même besoin de cette distance. Si on regarde le smartphone de trop près, comme moi en étant myope, et sans correction, il ne va pas me reconnaître. Il va voir, et je regardais sur la caméra frontale, ce que j'essayais d'imaginer, voir ce que voyait Face ID. Il doit voir un morceau de front, donc très très raisonnablement il me voit pas. Et c'est un scoop, Face ID a besoin de voir votre visage pour vous reconnaître, ce qui est assez incroyable quand même, hein. Et d'ailleurs ça me fait sourire, parce qu'il y avait beaucoup de tests où justement il parlait du fait que avec des écharpes, bonnets, machin, oui, Face ID a besoin de votre visage pour vous reconnaître, c'est dingue, hein. Et quand il voit votre visage, eh ben il marche très très bien, c'est très rapide. À l'usage, cette petite gestuelle vers le haut est hyper fluide avec la reconnaissance faciale. Comme je le disais, c'est parfois un peu flippant de se rendre compte que il déverrouille le smartphone de manière aussi transparente. Ça donne l'impression qu'il n'y a plus de protection, mais c'est hyper agréable. Un petit mot aussi sur les gestuelles. Bah ça y est, hein, j'ai commencé à m'approprier les gestuelles. Je suis plus du tout en train de chercher le bouton home, mais ça, je crois que c'est en 24 heures, c'était parti. Et les gestuelles sont vraiment inscrites dans mes habitudes maintenant. Le fait de revenir à l'écran d'accueil, le multitâche, je m'en sers toujours aussi peu qu'avant, donc je pourrais pas vous dire si c'est plus ou moins intuitif par rapport à avant. Mais en tout cas, la gestuelle de remplacement du bouton home ne pose aucun problème. Les nouveaux raccourcis pour la copie d'écran ne posent aucun problème. Voilà, je suis assez conquis. Sur le format, je suis très content d'avoir un appareil peut-être un poil plus petit que le plus. Moi, ça me dérangeait pas du tout au quotidien, mais peut-être que ce format un peu plus compact fait que c'est un peu plus confortable à transporter au quotidien. Allez, soyons dingues, c'est un peu mieux. Non, je déconne, parce que j'adorais mon format plus et c'était pas du tout bloquant pour moi. Voilà, une revue à une semaine d'utilisation qui conforte en fait mes premières impressions. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, bah n'hésitez pas, hein, je suis dispo par Twitter notamment, Guillaume Vendée, et puis je pourrai y répondre dans un prochain épisode. Désormais, la prochaine étape, c'est un mois d'utilisation. Je vous dirai évidemment si à l'usage il y a des choses qui changent fondamentalement ou pas. Oh, tel que c'est parti, il risque pas vraiment d'y avoir beaucoup de surprises, mais bon. J'espère que cette petite revue vous aura intéressé. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine Voix de Guillaume. Ciao à tous.